Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, pour cet entretien hebdomadaire, vous nous accueillez au chalet, votre chalet à Lourdes, tout près du sanctuaire. Alors, c'est pas la première fois, mais on va un peu rentrer dans les coulisses, pardon, puisque régulièrement, on enregistre cet entretien ici, où vous passez quand même pas mal de temps. On essaie de comprendre un petit peu ce que l'évêque de Tarbes et Lourdes vient faire ici au chalet épiscopal. Pourquoi c'est nécessaire pour vous de passer plusieurs jours par mois ici, tout près du sanctuaire?
Oui, de manière habituelle, je repère désormais à l'usage, parce qu'on m'avait posé la question au début, je suis arrivé, comment je comptais me répartir entre Tarbes et Lourdes. J'avais répondu, mais j'en sais rien, je verrai bien. Je sais que jusqu'à Monseigneur Donze inclus, c'était tous les mois d'hiver à Tarbes, et puis les mois d'été, toute la caravane épiscopale s'installait au chalet avec la secrétaire, le cuisinier, le chauffeur, etc. Bon. Et puis, Monseigneur Sahuquet, lui, se partageait trois fois par semaine à Lourdes, trois jours par semaine à Lourdes et trois jours par semaine à Tarbes. Et que Monseigneur Perrier, c'était à peu près trois fois par jour à Lourdes et trois fois par jour à Tarbes. Et que Monseigneur Brouvet, lui, s'était installé ici à Lourdes. Et que moi, je m'adapterai, je verrai bien. Bon, alors, au constat, désormais, avec un peu de recul, j'observe que je passe à peu près six semaines continues l'été, entre juillet et août, ici au chalet à Lourdes. Tout en allant à Tarbes régulièrement, bien sûr, mais enfin, je pose mes valises à Lourdes. Et puis, au moment du pèlerinage diocésain, qui, juste avant la Toussaint, est suivi juste après la Toussaint par l'Assemblée plénière, je repasse 15 jours d'affilée ici à Lourdes. Et puis, plusieurs fois dans l'année, j'y passe quelques jours. Là, cette semaine, je viens poser mes valises à Lourdes pour 4 ou 5 jours, à l'occasion du pèlerinage de Malte, qui me donne quelques obligations de présence et de réception. Bon, puis ça arrive deux, trois autres fois dans l'année. Sinon, le rythme habituel, c'est d'arriver, j'arrive pendant la saison des pèlerinages, le mardi soir. Je passe la journée du mercredi avec des rendez-vous et des réunions propres à l'activité du sanctuaire. Et notamment le mercredi midi, je poursuivis l'habitude prise par mes prédécesseurs d'inviter tous les évêques présents avec des pèlerinages pour un déjeuner entre évêques fraternels. Et c'est l'occasion pour moi de voyager en une heure et demie ou en deux heures dans le monde entier grâce à eux. Et c'est bien agréable. Et voilà.
C'est important pour vous de sentir cette ambiance du sanctuaire. Vous êtes tout près, hein, donc vous entendez peut-être les chants des pèlerins qui montent. C'est important pour vous, évêque de Tarbes et Lourdes, gardien de la grotte, de sentir ça, de l'entendre.
Bien sûr. Alors, d'autant que, évidemment, ma responsabilité m'oblige à intervenir beaucoup dans l'administration aussi du sanctuaire. Et donc, à travers un certain nombre de réunions très, très régulières tout au long de l'année, en saison et hors saison des pèlerinages, comme on dit, avec les différents acteurs du sanctuaire, le recteur, bien sûr, que je rencontre à peu près toutes les semaines, et puis directeur et autres intervenants importants du sanctuaire que je rencontre régulièrement. Donc, de toute façon, je suis obligé d'être ici pour ces rencontres-là. Et puis, d'autres invitations ou obligations liées à ma charge du sanctuaire et de gardien de la grotte, comme on dit, pour un certain nombre de célébrations que je dois présider ici, des pèlerinages que je dois ouvrir ou conclure, enfin, voilà. Donc, je suis de toute façon lié à l'activité du sanctuaire.
Est-ce que cette activité, elle consiste aussi à continuer de plancher sur le projet Lourdes 2030? Alors, pour les Lourdais, c'est tout ça avec un jargon et un dossier certainement connu, mais pour les restes des diocésains, peut-être pas. Le projet Lourdes 2030, c'est quand même un projet très conséquent. Vous êtes impliqué dedans, Monseigneur ?
Oh, et comment ? C'est un projet en effet conséquent. Alors, qui s'est appelé Lourdes 2030 au début, qui peut-être devra être rebaptisé Lourdes 2035 ou 2040, mais qui, sous cette appellation, concerne une vision du sanctuaire mise à jour, en quelque sorte, à partir d'un certain nombre d'obligations de mise aux normes, de bâtiments qu'il faut refaire ou de lieux qu'il faut revoir, parce que le sanctuaire vieillit, bien évidemment. Et plutôt que de, comme pour le reste, mettre des rustines ici et là dans l'urgence chaque fois qu'il y a une obligation, eh bien de se poser, de définir une vision d'ensemble qui à la fois répond à ces obligations, mais aussi à l'évolution du profil des pèlerinages et des pèlerins, identifiés, hein, toujours, voilà, qui évoluent, pour adapter notre pastorale d'accueil et d'accompagnement, de proposition du message de Lourdes à ces nouveaux publics qui viennent d'autres continents, qui changent aussi le modèle des hospitalités qui amènent des pèlerins malades, qui étaient l'immense majorité des pèlerins de Lourdes jusqu'à il y a pas si longtemps, a considérablement changé, notamment depuis le Covid, mais déjà bien avant. Et donc, le nombre de pèlerins est toujours aussi important, mais leur sociologie, leur style, leur identité a changé. Il faut que nous nous adaptions à eux pour continuer de proposer le message. Et donc, pour cela, il y a des aménagements à faire, des modernisations à opérer, etc., etc. Et donc, Lourdes 2030, ça recouvre toute cette vision qui fait que, dès qu'on a les moyens de poser un élément du puzzle, on sait où le poser dans une cohérence d'ensemble qui sera achevée un jour, lorsque les moyens auront permis de poser pièce après pièce. Voilà.
Ça veut dire que sur la base d'un travail de réflexion pastorale sur l'accueil des pèlerins, le visage du sanctuaire, des bâtiments, va évoluer.
Il n'a jamais cessé de le faire depuis 1848, 58, et il continue de le faire encore, et il le fera encore. Notamment, un des grands éléments phares de cette vision, c'est le réaménagement complet de l'entrée dans le sanctuaire par la porte Saint-Joseph. Oui. Là, pour le coup, en lien avec la ville de Lourdes, puisque ça concerne le domaine public à l'extérieur de la porte Saint-Joseph. Ceux qui sont venus au sanctuaire ont repéré la démolition des baraquements hérités du chantier de construction de la basilique Saint-Pilis, oui. Qui étaient les pavillons missionnaires, vocation, jeunes, mèges, action catholique, etc. Et donc, le réaménagement de tout cet espace. Il y a eu l'aménagement d'une chapelle, la chapelle Saint-Jean-Paul II, sous la radio et le service de la communication, à côté du musée Sainte-Bernadette. Bon. Donc ça n'a jamais cessé d'évoluer, et ça continuera de le faire. Donc l'espace d'entrée Porte Saint-Joseph, avec de grosses modifications, une redéfinition de l'usage des anciens accueils malades, où sont aujourd'hui Chapelle des Confessions, l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, le Bureau Médical, le Musée des Miraculés, donc avec de nouvelles réorganisations. L'administration globale du sanctuaire, qui est dispersée sur plusieurs sites et que l'on voudrait regrouper en un seul lieu, bon, et diverses autres choses. Un des gros chantiers, c'est l'accessibilité à la basilique de l'Immaculée Conception, dite basilique supérieure, en permettant l'accès sécurisé des pèlerins fauteuils roulants et autres personnes handicapées, autrement que par le trottoir très étroit qui borde la route et qui, quelquefois, met les gens en danger, comme lorsque les voitures passent un peu vite sur cette route-là. Et donc, une fois dans la basilique elle-même, il y a des marches partout, etc. Donc, il faut revoir un petit peu les choses et puis la rafraîchir intérieurement. Ceux qui lèvent les yeux et regardent un petit peu s'en rendront vite compte. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de projets, d'ambitions et beaucoup de gens qui veulent nous soutenir aussi dans ces opérations, des gens qui ont les moyens de nous aider à l'étranger, en Asie, aux États-Unis et bien d'autres. Et donc, il y a tout un travail là aussi de présentation, de projets, de dossiers et pour solliciter des mécènes qui sont vraiment désireux de nous aider à faire tout ça.
Ma dernière question sur ce sujet, Monseigneur. Bon, il y a une part de travaux à suivre, de chantiers, de réflexion pastorale, on a bien compris. Ça vous intéresse, ça vous passionne. Enfin, quel cœur vous y mettez dans tout cela? On peut se dire qu'a priori, la question des trottoirs et tout ça, ça pourrait être un problème en plus qui vous concerne pas complètement.
Vous savez, mon quotidien au service du diocèse, il ressemble à ça aussi, avec les réalités tout à fait concrètes, matérielles et pratiques qui concerne le diocèse, mais c'est pareil pour vous dans vos familles, où les réalités théologiques et spirituelles magnifiques du sacrement du mariage qui sont exposées au moment de la préparation s'incarnent au quotidien dans des contingences matérielles diverses. C'est pareil pour l'évêque, et voilà, et c'est comme ça pour l'Église, et c'est comme ça pour tout le monde.
Allez, Monseigneur, merci d'abord pour ces réponses sur cette question. Ça fait du bien aux diocésains, je pense, d'avoir des nouvelles, de ces nouvelles-là du sanctuaire de Lourdes. On va revenir sur la journée diocésaine du 25 avril dernier, une magnifique journée au cours de laquelle le diocèse a vraiment rendu hommage au bienheureux abbé Pascal Vergès. C'était vraiment une journée réussie, un bel hommage. Hein. Certainement qu'au ciel, Pascal Vergès était tout à la fête.
J'étais extrêmement heureux de voir que bon nombre de prêtres ont répondu à l'invitation à se retrouver au presbytère d'Argelès, qui vient d'être réouvert, reconstruit, pour un temps de bénédiction et un temps fraternel, avant de nous retrouver avec tous ceux qui se sont déplacés, et ils étaient nombreux, bien sûr de la paroisse et des vallées, mais aussi d'autres lieux du diocèse qui avaient répondu à l'invitation à se retrouver au cimetière d'Argelès, autour de la tombe de l'abbé Pascal Vergès, du bienheureux Pascal Vergès, pour un long temps de prière et d'intercession pour demander des vocations pour le diocèse, avant de nous retrouver au village d'Auquin, dans le Val d'Azun, pour une magnifique conférence de Monseigneur Perrier. Il avait donné une très belle conférence déjà à la Maison de Saint-Paul, mais vraiment celle donnée samedi dernier à Auquin était bouleversante, dans une salle municipale comble, avant que l'on se retrouve pour une très très belle messe dans une belle église d'Auquin que je ne connaissais pas, qui est vraiment un très très bel endroit, qui est l'église dans laquelle l'abbé Pascal a été baptisé, qui est l'église de sa toute petite enfance, avant que la famille ne déménage à Luce, où le papa était gendarme, et où le diocèse était bien présent aussi, dans une église comble avec une belle célébration chantée par le chœur diocésain, bien présent. Et puis voilà, avant que de nouveau on se retrouve à la salle des fêtes municipales pour un très très beau temps convivial offert par la mairie. Et tout cela a été magnifique.
C'était beau de voir à quel point les habitants du Val d'Azun, y compris ceux qui ne sont pas nécessairement liés à la vie de l'Église, sont touchés par cette figure, par la vie donnée de Pascal Vergès, par l'enfant du pays qui a donné sa vie pendant la guerre.
Une figure qui est restée longtemps tout à fait inconnue. Enfin, même les membres de sa famille témoignent que, il savait qu'il y avait un oncle qui fut prêtre du diocèse, qui est mort à 34 ans en Allemagne, 1944. Mais eux-mêmes découvrent les circonstances de cette mort et la qualification de martyr par l'Église. Et beaucoup de gens font de même, y compris les prêtres du diocèse d'ailleurs. Et c'est une source de belle fierté. Et dans le contexte de notre monde aujourd'hui, c'est finalement une mise en lumière par l'Église de 50 martyrs qui peuvent éclairer, nous aider, éclairer la conscience des fidèles catholiques d'aujourd'hui et nous aider à porter sur notre monde et son histoire contemporaine aussi un regard qu'il faut oser porter et puis affronter quoi les choses comme elles sont. Et voilà, et donc les gens sont touchés et puis fiers aussi de cette belle figure de prêtre de notre diocèse. Et voilà, et tout cela est bel et bon.
La suite, c'est quoi pour l'abbé Pascal Vergès? Alors, nous sommes invités, vous l'avez dit samedi, à l'invoquer, à prier Pascal Vergès. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres événements diocésains, comme celui qu'on a vécu samedi? Qu'est-ce qu'on va vivre en diocèse autour de cette figure spirituelle?
Alors déjà, j'ai indiqué que désormais, chaque année, le 5 mai, je célébrerai une messe à la cathédrale. En l'honneur du bienheureux Pascal Vergès et de ses compagnons martyrs du nazisme, comme prévu par l'Église. Donc chaque année, le 5 mai, déjà il y aura ce rendez-vous annuel, puisque depuis Bernadette Soubirous, Sainte Bernadette, c'est le premier membre de notre Église diocésaine à être ainsi honoré par l'Église. Et donc de même qu'on se retrouve de manière importante à Lourdes chaque année le 18 février pour Sainte Bernadette, et bien de même on se retrouvera à la cathédrale chaque année le 5 mai pour le bienheureux Pascal Vergès. Et outre ce rendez-vous-là, eh bien, il faut travailler, et c'est la mission confiée au comité Abbé Pascal Vergès, travailler à le faire connaître. Et notre archiviste diocésaine, Madame Pascale Castillo, a mis au point une exposition que l'on a découverte samedi dernier, et qui est itinérante, et les paroisses se sont appelées à en faire la demande pour contribuer à faire connaître Pascal Vergès, les conférences de Monseigneur Perrier, les publications qui viendront. L'archiviste travaille à réunir des documents que l'on sait exister, mais qui sont très dispersés, pour continuer d'approfondir de notre côté la connaissance de l'abbé Pascal Vergès. Et puis, il y a une réflexion aussi sur le lieu de sa sépulture. Aujourd'hui, il est dans le caveau familial à Argelès, et la famille y tient, et c'est tout à fait normal. La question, c'est est-ce qu'un jour on pourra imaginer le transférer de ce caveau familial vers une église du diocèse, pourquoi pas la cathédrale. La question est ouverte, il y a avantages et inconvénients, il y a pour, il y a contre. Bon, mais voilà, il y a une
réflexion. Vous êtes pour ou vous êtes contre ?
Il y a une réflexion qui doit se poursuivre. Moi, je suis pour ce qu'on estimera être le plus opportun et le meilleur. Pour l'instant, il est bien heureux. On verra si un jour il est canonisé avec les autres bienheureux qui ont été donc béatifiés avec lui. On verra ce qu'il conviendra de proposer à ce moment-là.
Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, j'avais encore une question, mais on la garde pour la semaine prochaine. Nous parlerons, entre autres, du sacrement de l'Eucharistie, ces adultes qui demandent la première communion, qui sont déjà baptisés et qui, après des années, reviennent à l'Église pour demander la première communion. Je vous propose qu'on garde cette question sous le coude pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Monseigneur.
Avec plaisir, et très très bonne semaine à tous.